Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Vous m'honorez d'une grande confiance qui quelque part me transporte dans un peu dans de la crainte. Mais j'ai prié ça ira bien. Et puis, vous avez vraiment une bonne, je dirais, tradition dans les assemblées mélanites de France de vous retrouver le jour de la Toussaint, le 1er novembre, pour réfléchir à un thème. Et c'est volontiers que j'ai répondu à l'invitation. Je ne suis pas venu seul, je suis accompagné par mon collègue Christian Solberger. Je te demande peut-être juste de te lever comme ça. Ce que vous n'osez pas me reprocher, vous lui direz à lui, comme ça, il me redira gentiment à la maison. Nous sommes tous deux pasteurs de l'église évangélique mélanite à Tavannes. C'est dans le Jura bernois, Jura suisse. C'est une assemblée. Longtemps, on disait qu'elle était jeune, maintenant elle a 23 ans. C'est une communauté fille des assemblées de Sonnenberg et de Moron. J'avais été, avant la constitution de cette nouvelle église, pasteur aussi de l'assemblée du Sonnenberg pendant une petite dizaine d'années. Oui, le thème que j'aborde aujourd'hui, baptême et don du Saint-Esprit, surtout l'aspect baptême du Saint-Esprit, je l'avais préparé et présenté lors d'un atelier du congrès mennonite européen qui a eu lieu à Soumismal en mai dernier. Je pense que le fait de proposer ce thème et qui a été retenu à Soumismal, c'est une préoccupation un peu profonde que j'ai en tant qu'ancien prédicateur, serviteur dans les assemblées mennonites. C'est que parfois j'ai le sentiment que nous sommes forts quand nous parlons en théologie dans le domaine de la réponse, l'anabaptisme est surtout une théologie de la réponse de l'homme par rapport aux attentes de Dieu. Et je pense que dans ce domaine-là, nous avons une riche tradition. Il est important de la développer, de la comprendre et de toujours à nouveau la cultiver. Et puis, il y a, pour qu'il y ait une bonne réponse, il y a aussi la théologie de l'offre. Alors, c'est plutôt les églises historiques, l'église réformée, les théologiens issus de la réforme du XVIe siècle qui ont beaucoup travaillé les offres de Dieu. Et c'est peut-être là où, par moment, on est un peu plus faible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la théologie des offres de Dieu dans nos assemblées parmi nos docteurs et nos théologiens, mais je pense que c'est parfois un peu le parent pauvre. C'est-à-dire, très vite déjà, nous sommes tellement habitués à être des travailleurs, on est des paysans à la base, nous les anabaptistes, on aime apporter notre contribution, et c'est très important, mais notre contribution, elle s'articule toujours avec un travail premier, qui est celui de Dieu. Dieu fait le premier travail, et nous faisons ce qui vient après. Et nous faisons qu'une petite partie, puisque beaucoup de choses se passent sans nous. On n'a peut-être même pas prié pour le beau temps, puis le Seigneur le donne encore aujourd'hui en plus. Il y a les grâces que dès que l'on réalise, et encore celles qu'il donne en plus. Je vais parler aujourd'hui comme un généraliste, je suis un berger de communauté, vous l'avez entendu, je parle à partir de ma place. Je ne suis pas un docteur de l'Église, je suis un pasteur, un berger. Si je devais encore dire un mot qu'on utilise peu chez les mennonites, mais vous m'avez demandé un thème un peu pointu, donc je parle de manière pointue par moment. Si je devais encore dire qu'est-ce qui s'ajoute à mon pastorat, c'est peut-être un accent de type apostolique. Je n'ai pas dit que je suis apôtre. Je dis, j'ai une mission de type apostolique, c'est-à-dire dans le sens original du mot, pas dans le sens peut-être que lui donnent certains milieux charismatiques ou pentecôtistes, c'est-à-dire celui qui est dans le mouvement apostolique et celui qui sort de chez lui pour dire la bonne nouvelle ailleurs. Dans ce sens-là, je pense d'une part par l'implantation d'une église dans un nouveau lieu où j'étais acteur principal, après le Seigneur, il y a lui d'abord, et puis nous on fait après. Et puis je pense que ces 30 années de ministère, j'ai été beaucoup impliqué, je suis encore, où je rejoins beaucoup de groupes, qui sont mennonites ou d'autres dénominations, pour m'asseoir avec eux et être diacre avec eux au milieu d'une complexité d'une situation, aussi dans le domaine de l'œuvre du Saint-Esprit. Comment est-ce que le Seigneur voudrait nous inviter à faire le prochain pas qui soit utile et qui soit pertinent? Dans ce sens-là, vous comprenez cet accent que j'ajoute au travail pastoral que je fais. Toujours cela avec simplicité, parce que dans le règne de Dieu, quand on reçoit quelque responsabilité, on est toujours plus serviteur. On n'est pas toujours plus haut, on est toujours plus bas quelque part. Hein. C'est Jésus qui nous a enseigné cela. J'aimerais encore préciser au début que les notes qui me servent aujourd'hui, elles existent sur un PDF et les personnes qui souhaiteront les recevoir peuvent s'adresser à Jean-Marc Graber. Les choses sont chez lui, c'est lui le diacre des notes, hein. Et puis vous pouvez les lui demander. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci aussi pour la transmission, enfin pour le bimère. J'essaie de mettre les thèmes pour faciliter l'écoute. J'aimerais parler de quelques généralités. Dans l'histoire du salut, l'œuvre du Saint-Esprit est importante. Pour décrire son action, les textes bibliques utilisent différentes images et comparaisons, questions de force, de vent, de feu, d'huile, de vêtements que Dieu donne. Et pour venir très vite à Jean-Baptiste, il résume le ministère en indiquant qu'il baptisera les personnes avec le Saint-Esprit. Il est le premier à le dire ainsi. Donc, avant Jean-Baptiste, personne ne dit que Jésus baptise dans l'Esprit. Encore une petite nuance ici, il n'est jamais question du baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Il y a toujours le verbe, c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit ou de l'Esprit, selon les traductions. Donc c'est important de nous souvenir que quand on utilise cette image-là, ce n'est pas un seul qui parle de cette réalité, il y a toujours le verbe qui est utilisé. Et on pourrait dire que Jean-Baptiste, qui est, je force un peu le trait, qui est un baptiseur professionnel, hein, appelé par Dieu pour un mandat spécifique dans le désert, eh bien, il parle à partir de son monde à lui. Il est dans son monde d'homme qui baptise des personnes. À partir de ce monde, il dit « Celui qui vient après moi baptisera dans l'Esprit Saint ». Il fait cela dans le Jourdain auprès des personnes qui se repentent. Il souhaite que les personnes entendent bien qu'il n'est pas à confondre avec le Christ. Et j'aime encore dire que cette présentation très sommaire que fait Jean-Baptiste de Jésus, les quatre évangiles en parlent, et même le début du livre des Actes. Je vous propose de rapidement voir ces textes. Un d'entre eux a déjà été lu tout à l'heure. Le premier dans Matthieu 3. « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Il est plus puissant que moi, je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures. » Il tient en sa main la pelle, la vannée, et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Marc le résume différemment, avec le même contenu. Jean-Baptiste déclarait à la foule, « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. » Je ne suis pas même digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. Je vous propose d'entendre Luc. Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint jamais. » Le texte de Jean qui suit, nous l'avons entendu déjà il y a un instant. avec la précision que Jean, qui accueillait beaucoup de monde dans le désert, ne pouvait pas bien reconnaître Jésus, et c'est la manière dont l'Esprit est descendu sur Jésus qui lui a donné ce regard de foi sur lui. Puis je vous propose encore d'écouter le texte au début du livre des Actes. Et puis Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, il met, parce que c'est ce qui est intéressant, on pourrait dire, la manière dont Jean-Baptiste a parlé de la venue de l'Esprit-Saint dans son monde à lui de baptiseur à plein temps. Jésus a repris à son compte ce que Luc résume ici. Un jour, Jésus prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors: Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Puis il y a une reprise au verset 7 où Jésus se répète. Jésus leur répondit: Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps, les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Puis voilà, répétition, verset 8: Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Je m'arrête ici pour les lectures. Sans être un spécialiste de l'iconographie et de l'art sacré, j'aime bien vous dire que ces textes ont été montrés et ont été peints en beaucoup de lieux, les Pentecôtes. C'est-à-dire cette naissance de l'Église, cette venue de l'Esprit-Saint. La première illustration qui illustre ce lieu particulier, la chambre haute, hein, ce lieu à part. Puis la descente du Saint-Esprit, l'image de droite, avec déjà un peu la glissade, hein, au XIVe siècle, c'est Marie qui est d'abord baptisée de l'Esprit-Saint, les disciples aussi, mais on sent, dans l'illustration, cette glissade, hein. Encore le cliché suivant, les Pentecôtes qui mettent en mouvement les personnes. Il y a l'illustration de gauche, hein, où on remarque vraiment qu'il y a une offre de Dieu qui est reçue, qui est accueillie. L'image de droite qui illustre une peinture du XVIIIe siècle, comment le ciel est associé à cette rencontre, à ce jour de la Pentecôte. J'ai encore trois images à vous montrer. Je fais par moments des voyages en Égypte et je suis un peu découvert les Coptes, puisque ma sœur est impliquée avec eux, avec son mari, dans un travail d'évangélisation. Et c'est intéressant de voir l'iconographie des églises orthodoxes. Vous voyez l'icône de la Pentecôte, de Los Angeles, donc qui est récente, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun reçoit le même don. Il y a un même regard, ce qui est joli dans cette icône. Et celle de l'autre côté l'illustre aussi. C'est-à-dire où chacun est au bénéfice d'une même grâce. Il n'y a pas un qui a un peu, l'autre a beaucoup plus. Je pense que la théologie orthodoxe aime souligner ça. Et puis une dernière image qui est une fresque de Kef, c'est cette relation. En fait, c'est peut-être pas très joli, hein, à voir comme ça, mais il y a comme ça une connexion qui est établie avec le personnel du Seigneur. Et puis, si on ferait aujourd'hui aussi depuis le ciel, comme ça, on vous dessinerait, hein, il y aurait beaucoup de canaux à dessiner en vous regardant, vous qui confessez la foi. Dès que l'on confesse la foi, ce canal est ouvert pour nous rendre, nous associer au ciel. Que devons-nous comprendre? Jean-Baptiste baptise les personnes qui confessent leurs erreurs de priorité, leurs péchés, leurs objectifs manqués. Ce baptême est le signe extérieur, c'est l'illustration d'un mouvement du cœur, d'un mouvement intérieur, qui est la réalité. Et dans la pratique juive, le baptême de Jean-Baptiste est un rituel de purification. Donc les juifs pieux pouvaient répéter cette purification. Et nous pouvons entendre, par l'usage du vocabulaire, nous pouvons entendre que Dieu veut nous immerger. Il veut nous inviter à entrer, à être bénéficiaire des projets de Dieu. Je le dis encore autrement, Dieu veut nous tremper dans sa vie. Nous tremper dans sa vie. Si on voudrait rester littéral, il y a un jeu d'images que j'ai essayé de retraduire. On est plongé, enfin en principe être plongé c'est aquatique, mais il y a le monde aquatique et le monde pneumatique, le monde du vent qui est utilisé, c'est-à-dire on est plongé dans le vent qui est saint. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, précisément, un vent violent amène des flammes de feu. Donc en principe, quand il y a du vent, il n'y a pas de feu, où les flammes, petites flammes s'éteignent. Mais il y a comme une œuvre particulière qui est utilisée dans cette illustration, avec la démonstration que les croyants vont pouvoir être mis en route dans le témoignage et dans le fait d'être là où le Seigneur les appelle, appelé à être un témoin dans le monde. Et si ce baptême de Jean, à l'époque, était différent d'une autre, parce que nous, le baptême chrétien a une autre signification, puisque c'est la mort et la résurrection avec Jésus. C'est un baptême qui se pratique auprès de personnes qui en font la demande, qui professent la foi. Je dirais, tant le baptême juif de purification que le baptême chrétien signalent les deux qu'il y a un acte volontaire, c'est-à-dire une réponse de la part de la personne qui demande à être baptisée. Et le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, reprend les paroles de Jean-Baptiste pour décrire cette action du Saint-Esprit. Et nous entendons donc que Dieu veut ainsi nous conduire et nous diriger dans sa grâce. On remarque dans les texte du Nouveau Testament, qu'il y a plusieurs Pentecôtes qui vont pouvoir se placer. Et il y a la Pentecôte de Jérusalem, bien sûr, mais il y a aussi celle de Samarie, dans Acte 8, celle chez Corneille, à Antioche, celle d'Éphèse encore, où chaque fois, il est question du don du Saint-Esprit qui est accompagné par différents signes. Durant son ministère, Jésus a aussi souvent parlé de ce que fait l'Esprit-Saint. Il donne le pouvoir, par exemple, à ses disciples, au travers du Saint-Esprit, à être ouvrier dans la moisson, par exemple. Ou bien, j'ai mentionné aussi, il enseigne Nicodème pour dire que c'est que la nouvelle naissance, ce mouvement, ce premier mouvement de foi, doit être généré par le Saint-Esprit. Si notre conversion est simplement une idée humaine, ou bien une démarche humaine, elle n'ira pas loin. Il y a certains évangélistes qui relèvent parfois avec raison qu'on peut être converti, mais pas de nouveau. On a pensé que, mais on n'est pas vraiment entré dans la vie de Dieu. Je n'aimerais pas forcer le trait là, à cet endroit-là, mais dire c'est tellement important que notre démarche avec Dieu soit liée à une naissance qui est donnée par lui. Ailleurs, Jésus souffle sur les disciples. Ou bien encore, il enseigne de manière majeure dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean comment le Saint-Esprit va remplacer son ministère. Il est avantageux que je m'en aille. Enfin, puis vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Et puis vous avez un avocat, vous avez quelqu'un qui vous introduit et qui vous autorise. Vous êtes mandaté, allez-y. C'est le travail du Saint-Esprit. Parce que connaître Jésus, avoir une connaissance doctrinale, avoir une rencontre avec le Christ, bien sûr tout ça est important et ça suffit pour le salut. Mais c'est encore une autre chose que d'être enfant de Dieu, sauvé par grâce, baptisé de la bonne manière. Et puis nous, les anabaptistes, on a un peu souligné dans l'histoire comment, à quel moment devait intervenir le baptême. Mais après, il y a la marche de disciple. Et puis la marche de disciple, ce n'est pas que pénible. C'est pas que tu dois, et s'il te plaît, bouge-toi et viens le 1er novembre. Ça pourrait être bien considéré chez toi. Non, la vie chrétienne est intéressante, c'est passionnant, c'est motivant, puisque le Saint-Esprit, c'est le vent qui nous pousse. Il se pourrait que le Saint-Esprit te pousse au milieu de tes frères et sœurs à faire un ministère qui est un peu particulier. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire le contraire ou de créer incessamment la confusion, mais dans une église vivante, normale, habitée par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de mandats. J'aime bien dire que l'église est en principe une maternité où on enfante en permanence. En permanence, il y a des enfants, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles démarches, il y a des nouvelles zones où la foi est vécue et accueillie, et ça bouge. Des fois, on s'habitue et tout devient gris. Je parle de ma vie. Quand on travaille dans son vase clos, les choses deviennent grises. Elles se limitent à nous-mêmes. Et nos efforts se limitent à cultiver, maintenir des choses qu'on essaie de mettre en place, alors que, avec la dynamique que le Seigneur voudrait nous donner, Jésus veut travailler avec nous et il voudrait nous rendre curieux et curieuses. Si j'ai réussi, si dit ce soir, vous êtes un peu plus curieux de ce que Dieu aimerait faire avec vous, j'ai gagné. Où le Seigneur a gagné. Si vous êtes un peu plus curieux, ce que Dieu voudrait faire avec vous. Comment Dieu, dans les sphères où vous êtes très habitués déjà, ce que Dieu voudrait générer comme nouveauté. Et ça ne doit pas être quelque chose d'artificiel ou quelque chose d'importé d'ailleurs, c'est ce que Dieu veut générer avec toi. Avec ta couleur, avec ta sensibilité, avec tes charismes, ou des charismes qui dorment. Parce que j'aime aussi dire que, ce sera le sujet de tout à l'heure, mais il y a beaucoup de charismes. Des fois, on se dit, oui, mais est-ce que Dieu a donné les dons? Bien sûr qu'il les a donnés. Simplement, ils dorment, ces charismes. Dans une église normale, il y a 10% de gens qui sont évangélistes. Il y en a 10% qui sont en principe des prophètes. Est-ce que ça bouge ou est-ce que ça dort? Ce que Dieu veut donner, est-ce qu'on s'habitue à l'étouffer, à couper toujours, un peu comme le gazon, hein, on coupe toujours, hein, dès que ça vient un peu, on coupe encore. Et puis je suis pasteur, hein, ça m'est arrivé de couper chez les autres ce que je n'aurais pas dû couper. Je confesse, je dis au Seigneur, et puis il me pardonne, puis j'apprends mon métier ou mon service. C'est important. J'aime aussi dire que quand l'Esprit-Saint veut travailler, il y a des complications et de l'espérance. Les bénédictions de Dieu, je le dis de manière, comme un pasteur, un docteur en théologie dira ça beaucoup mieux que moi, mais moi, ce soir, je traverse un peu un gazon en disant ça, comme je vais le dire. Les bénédictions promises par Dieu sont entourées de résistance. Toutes les bénédictions de Dieu, tous les cadeaux que Dieu aimerait nous donner, autour du cadeau, il y a une résistance. Parce qu'on n'est pas d'emblée collaborant. Et puis, le climat n'est pas d'emblée positif. Il peut, ça peut, mais en principe, ce n'est pas d'emblée positif et accueillant. Et vous pouvez voir ce principe dans l'histoire du peuple d'Israël. Même déjà avant la vocation du peuple d'Israël, je dirais, toutes les promesses, les demandes que Dieu fait, il y a tellement de résistance, il y a tellement d'enjeux et tellement de grâce lorsqu'on traverse, je dirais, un tunnel où il s'agit d'être fidèle pour traduire une obéissance et toucher la bénédiction. Et moi, j'ai souvent vu cela dans le domaine de l'accueil et de la vie de l'Esprit-Saint. Et pour dire que parfois même les erreurs ou bien que l'on a fait, les résistances qu'on a dressées peuvent faire partie de la formation continue que Dieu nous donne, mais elle est toujours différente pour chacun de nous. Et c'est vrai que parfois ces complications peuvent même être vraiment des freins dans un milieu chrétien. Je vais être plus clair, excusez-moi, mais il y a des églises, excusez-moi. Je crois qu'elles sont chrétiennes, je crois qu'il y a des frères et sœurs, mais le climat n'est pas favorable, il n'y a pas de liberté pour laisser venir ce que l'Esprit-Saint voudrait donner, pas dans tous les domaines, mais non, puisque déjà quand on professe Jésus, il y a déjà le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Il y a toujours du Saint-Esprit qui est là, mais le problème c'est, qui c'est qui a le contrôle ? Je mentionne la phrase d'un célèbre prédicateur, vous reconnaîtrez peut-être. Est-ce que Saint-Esprit est résident ou président? Est-ce qu'il peut présider ta vie? Ou est-ce qu'il peut simplement avoir une petite chaumière dans un coin et puis on appelle de temps en temps quand on est mal pris? J'accompagne une dame, depuis 2 ans, elle ne veut plus me voir, mais comme aujourd'hui, elle a un examen médical, hier soir à 11h, elle me demandait de prier pour elle. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça qui, quand on est dans l'urgence, peut-être le Saint-Esprit est là, mais sinon je me débrouille. Vous savez ce que ça veut dire en France, se débrouiller? C'est-à-dire, je fais de moi-même, je trouve mes solutions par moi-même, c'est un terme jurassien un peu. Je suis fort tout seul. Et puis, parmi ces complications que je mentionnais, il y a, je dirais, aussi des oppositions qui peuvent par moments grandir et être là. Et j'aimerais vous mentionner 3 exemples qui, quelque part, nous ont concernés, nous, en tant qu'anabaptistes. Je les ai notés aussi sur un cliché. Par exemple, les anabaptistes de Münster, avec le royaume qu'ils ont mis en place. Alors, bien sûr, c'est l'aile illuministe de l'anabaptisme. En 1534-35, qui ont développé une théologie farfelue sur la prophétie, sur comment Dieu parle, comment le Saint-Esprit agirait, avec beaucoup de choses incontrôlées, avec la polygamie, le fait qu'on décrète, voilà, c'est Münster, c'est la nouvelle Jérusalem sur terre, c'est elle qui accueille le retour du Christ et qui jette un discrédit sur les chrétiens anabaptistes dans toute l'Europe. D'ailleurs, si on s'appelle aujourd'hui Ménonite, c'est bien parce qu'il a fallu quelqu'un, et heureusement, que Dieu a par le Saint-Esprit, suscité Ménon-Simon pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Parce que c'était vraiment la pagaille en Europe. Mais je dirais, dans nos fonds de tiroir, nous avons une approche un peu craintive de ce que fait l'Esprit-Saint, puisque à Münster, on a eu un tel gros exemple de désastre qu'on n'a jamais d'ailleurs tellement retravaillé. On fait que de réécrire des romans, ou il y a eu récemment encore une série de films qui a été refaite à la télévision allemande pour remettre en scène, et puis les cages à Münster sont toujours là pour rappeler cet événement. Et si je suis bien formé au niveau des inscriptions des sites historiques, la seule place actuellement où en Europe il sera question d'anabaptistes, c'est vers l'église Lamberti justement, pour dire qu'il y avait des anabaptistes qui étaient là. Sinon, vous ne trouvez nulle part sur les plaques en Europe. Enfin, les Ménonites allemands sont en train de se dépatouiller un peu pour que ça change. Je vous donne un autre exemple. Point B, c'est le schisme qu'il y a eu entre les évangéliques classiques et pentecôtistes. Au début du XXe siècle, en Allemagne, avec l'apparition, bien sûr par moments un peu incontrôlée, pas toujours sage, mais quand même souvent aussi avec des bénédictions, du parler en langue, des nouvelles manifestations qui sont moins courantes dans les milieux classiques, eh bien, des braves frères, en voulant bien faire, puis si j'avais été de cette époque-là, j'aurais certainement été du côté de la déclaration de Berlin, eh bien, il y a eu un texte où on a dit « Tout ce qui vient de ces milieux-là vient finalement du diable. » C'est inspiré par le monde des ténèbres. Toutes les manifestations des milieux pentecôtistes. Il a fallu un siècle. Les chrétiens évangéliques classiques allemands ont mis un siècle pour dire « On s'est trompé. » Veuillez nous pardonner, vous les frères pentecôtistes. On a parlé mal de vous. » Et je connais moins la France, mais pour dire que dans nos assemblées ménonites suisses, par exemple, avec beaucoup de mes collègues antérieurs qui ont fait leurs études à San Krishona, qui est une montagne, sainte montagne, pas très loin d'ici, enfin, la déclaration de Berlin a du poids. J'ai moi-même entendu cela encore dans nos milieux ménonites. Donc, c'est aussi une couche qui nous tient. Ou encore, 3e exemple, le fait qu'on a quand même bien enseigné, en beaucoup de lieux, les positions cessationnistes en disant, écoutez, les dons du Saint-Esprit, ça c'est ok, tant qu'il n'y a pas le Nouveau Testament qui est constitué, ça c'est à la fin du 1er siècle. Alors auparavant, puisqu'il n'y avait pas de Nouveau Testament, il fallait bien que Dieu fasse des affaires extraordinaires pour que les gens croient. Mais depuis qu'il y a le Nouveau Testament, alors ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle le cessationnisme. Et puis, vous en trouvez bien des chrétiens qui ont cette position-là. Alors, il y a évidemment des saisons différentes dans le peuple de Dieu qui changent, mais c'est important de nous laisser interpeller. Ou bien à l'inverse, il y a eu beaucoup de gens abusés aussi spirituellement parce qu'on leur dit « Ah, tu parles pas en langue, oh, t'as pas vraiment le Saint-Esprit, toi. T'es un pauvre gars. » On a aussi malmené des gens comme ça, malmené des nouveaux chrétiens, divisé des communautés parce qu'on a comme deux fichiers. Et j'invente rien, c'était la pratique de certains milieux pentecôtistes classiques. D'ailleurs, le pentecôtisme mondial s'est distancé de ça. Bon, il y a encore quelques milieux qui maintiennent, mais on a deux fichiers. On a le fichier de tous les membres qui payent la dîme et qui sont convertis. Et puis, il y a ceux qui sont baptisés de l'Esprit, ça c'est une autre. C'est parmi eux ceux qui parlent en langue. Tu parles pas en langue, t'es quand même un peu là, au rabais. Vous comprenez? Ça fait partie des manipulations dans le peuple de Dieu et qui font que, quelque part, je vous parlais des complications autour des bénédictions, ça fait partie de ça. Mais j'aime aussi dire que Dieu, dans sa fidélité, n'a pas cessé d'intervenir toujours à nouveau. Dans chaque siècle, eh bien, de l'histoire de l'Église, il y a des empreintes de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie, au travers de la vie de tellement d'hommes et de femmes. Je pense aux consécrations, aux martyrs, aux solidarités. Vous trouvez ça dans chaque siècle, sous des formes un peu différentes, dans chaque tradition chrétienne, dans les formes d'humilité, la non-violence. Comment est-ce que vous voulez rester non-violent, vraiment, vraiment, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vous donne un coup de main? Sinon vous allez chez le psychiatre. Je parle de renouveau dans l'histoire. Je vous donne un exemple pour les églises mennonites du Jura où je suis. Autour des années 1900, on a eu heureusement un réveil qui est venu des piétistes allemands. Alors aujourd'hui, avec le regard historique, on est un peu tenté d'être sévère avec eux parce qu'ils ont apporté à cette dimension de la foi personnelle, c'est-à-dire moi et mon Jésus à moi. Vous voyez presque, moi et mon Jésus à moi dans ma poche. Vous voyez, je force le trait. C'est le problème du piétisme où on ramène tout à la foi, à la dimension personnelle, où la dimension communautaire est beaucoup oubliée. Et c'était dommage. Mais ce que je vais vous dire, je peux vous dire que le piétisme dans les assemblées mennonites du Jura a vraiment été un vent du Seigneur favorable. Et s'il n'était pas venu, il n'y aurait peut-être pas d'église de Tavannes aujourd'hui. Je vous dis ça aussi. Et ça, je lis dans peu de livres ou dans aucun livre. C'est-à-dire, il y a des fécondations que Dieu permet ici et là, sous des formes et des héritages différents. Alors, je suis d'accord que c'est important que les communautés gardent l'ADN qui est la leur. Et Dieu, comme il a fait à l'extérieur, les arbres, le monde végétal, avec tellement d'essences différentes, il est important de rester fidèle à son essence. Je veux dire par là, fidèle d'abord à la vie de Dieu, mais aussi fidèle, peut-être quand c'est possible, à sa tradition d'Église. Des fois, ce n'est pas possible, parce que la tradition d'Église devient erronée, ou se perd, ou s'éteint, et Dieu donne sa grâce différemment. Donc, devant ce que je viens de résumer un peu, les complications et les chances, c'est important de comprendre que nos choix profonds vont être importants et de ne pas nous cantonner dans des réactions réactives ou un peu extrémistes parce qu'on est très vite tenté par des positions une fois entendu quelqu'un qui a prophétisé ou bien un jour j'ai été guéri d'une maladie par imposition des mains et dorénavant je pense que tous ceux qui vont chez le médecin font des erreurs. Vous comprenez? On fait ces raccourcis, mais s'il vous plaît, on est intelligent quand même, hein. On est au 21e siècle, on est formé et puis on est nuancé dans d'autres thèmes. Pourquoi est-ce qu'on le serait pas dans ce qui concerne l'œuvre et le baptême du Saint-Esprit, où il y a cette collaboration entre la part que fait Dieu et la part que nous faisons en tant qu'être humain. Donc, je continue pour dire être baptisé par l'Esprit Saint, c'est essentiel, vivre cette immersion toujours à nouveau, qui est par d'abord relié à la connaissance, mais à la dépendance de Dieu. Jésus a souligné cela quand il disait, mais quand vous avez besoin de Saint-Esprit, c'est Luc 11, mais Mais demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. À combien plus forte raison mon Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Moi, je suis dans beaucoup de réunions de prière. Moi, j'entends peu souvent des gens prier: Seigneur, j'ai besoin de Saint-Esprit. J'entends peu souvent. Puis ça serait vraiment prier comme Jésus l'enseignait à ses disciples. Demander du Saint-Esprit. Pas que pour prêcher, pour être maman à la maison, pour être collaborateur dans son bureau, pour vivre bien sa retraite, avant de téléphoner à quelqu'un, pour qu'on ne fasse pas simplement la critique des gens qui n'étaient pas là au culte, ou qu'il y ait quelque chose de plus intelligent que donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous rend intelligent, nous rend intelligent. J'arrive vers la fin de cette première contribution. J'aimerais dire encore que c'est tellement important de comprendre que nous avons la responsabilité de vivre l'accueil de l'Esprit-Saint. C'est lui qui génère les nouvelles attitudes, les nouvelles dimensions qui sont dans notre cœur. Et je souligne pour terminer que la présence du Saint-Esprit crée toujours une différence dans nos vies. C'est-à-dire, nous restons nous-mêmes avec nos personnalités, nos forces et nos limites, mais comme mises en mouvement par ce que l'Esprit de Dieu aimerait ajouter. Paul a parlé que l'Esprit Saint allait générer des résultats. Ce n'est pas que pour notre confort personnel. Il a parlé du fruit, hein, au singulier, du fruit de l'Esprit Saint qui s'inscrit dans le domaine relationnel. Quand l'Esprit Saint est là, la communication est plus facile. Et quand on prétend que le Saint-Esprit est là et on est divisé et on a la guerre avec tout le monde, on est en droit de se dire, mais c'est peut-être pas le Saint-Esprit. Il faut encore discerner. Mais à moins que ce soit un apprenti de premier ordre. Parce qu'il faut encore être un peu patient. Je vais arrêter. Il faut être un peu patient avec des chrétiens du début qui font leur marche du début avec Jésus et qui sont tout enthousiastes parce qu'ils ont reçu un don particulier. Puis c'est un peu comme les enfants qui ont reçu un jouet, ils savent pas trop l'utiliser. Il faut un peu de temps quand même, quelques jours, hein, pour utiliser bien le jeu vidéo. C'est aussi comme ça avec les dons de l'Esprit Saint. Pour les instruments de musique, pour tous les corps de métier, on accepte des apprentissages. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un apprentissage pour user des dons de l'Esprit-Saint? On a le droit d'apprendre. Vous avez le droit à l'erreur, excusez-moi. Vous avez le droit à l'erreur. Alors, pas pour faire exprès les erreurs. Vous avez le droit à l'erreur pour apprendre des erreurs et faire mieux. Que Dieu bénisse notre réflexion et nous accompagne.